Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Vous avez peut-être déjà lu certains de ses romans. Les jours de mon abandon, L'amie prodigieuse, Le nouveau nom, auteur à succès, plus de 3,5 millions d'exemplaires vendus, traduites en 42 langues. Elena Ferrante a toujours veillé à dissimuler son identité, alimentant depuis plus de 20 ans maintenant les théories les plus diverses, notamment dans la presse italienne. Coup de théâtre dimanche dernier avec la publication dans un journal italien et dans trois autres journaux, dont le site d'investigation français Mediapart, d'une enquête très fouillée, une enquête qui a permis à son auteur de dévoiler la réelle identité d'Elena Ferrante. D'après le journaliste Claudio Gatti, qui a épluché de nombreux documents financiers et immobiliers, l'auteur, Elena Ferrante, donc, n'est autre qu'Anita Raya, Raja peut-être, traductrice pour EO, la maison d'édition d'Elena Ferrante précisément. Une enquête qui a depuis déchaîné les passions. Alors fallait-il dévoiler l'identité d'Elena Ferrante, qui n'a d'ailleurs pas réagi à ces révélations? Faut-il dévoiler l'identité des auteurs anonymes? C'est le débat de ce soir. Bienvenue. Pour en parler, une invitée qui est pour l'instant là. On espère que le second invité sera là. Johanna Luisen, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à Libération, rédactrice en chef du service web et vous avez signé un billet il y a quelques jours dans le journal pour expliquer que vous étiez opposée à la démarche de Claudio Gatti et à la décision de plusieurs de ces journaux de publier cette enquête. Notre second invité est François Bonnet, journaliste, directeur éditorial de Mediapart, qui arrive, me dit-on, et qui va donc nous expliquer le pourquoi. Pourquoi de cette décision? Johanna Luisen, comment vous expliquez, pourquoi vous avez été choquée? Je ne sais pas si le mot est trop fort, mais pourquoi en tout cas vous critiquez cette décision de Mediapart et de trois autres journaux?
J'ai été choquée et même disons un peu agacée. J'étais surtout agacée en fait quand j'ai vu arriver cet article, cette enquête, parce que je trouve que quand quelqu'un a décidé et a dit à plusieurs reprises qu'il y a le cas de Elena Ferrante, qui écrit donc sous le nom de plume Elena Ferrante, elle a dit à plusieurs reprises en interview qu'elle ne voulait pas que son nom soit public, qu'elle voulait se retirer de la vie publique et des injonctions que ça peut générer. Et du coup, je trouve ça assez choquant de publier sans son accord et de faire non pas un coming out, mais un outing.
Alors, votre billet s'intitule « Ah, voilà François Bonnet qui arrive. Bonsoir, monsieur. » Donc, je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes journaliste, directeur éditorial de Mediapart. Mediapart qui a donc publié cette enquête. Alors, je continue juste le temps que vous repreniez votre souffle.
Bonsoir.
Avec Johanna Luisen. Votre billet s'intitule « Laissons l'écrivaine Elena Ferrante en paix ». En paix, pour vous, c'est important parce que c'est poursuivre précisément cette démarche, la respecter, c'est ça?
Bah oui, parce que je pense qu'on peut, tout à fait se pencher sur des actes immobiliers et sur les comptes des personnes privées quand elles ont quelque chose à se reprocher, mais quand il s'agit d'une écrivaine qui a juste dit qu'elle voulait rester dans la discrétion, en fait, qui aspirait à un peu de discrétion, je vois pas vraiment l'intérêt de publier tout ça et de faire ces recherches-là.
Alors François Bonnet, alors peut-être une première question, puisque je le disais, ça a suscité énormément de débats chez les lecteurs, sur les réseaux sociaux.
Absolument.
À l'intérieur de certaines rédactions, dans la vôtre, à Mediapart, est-ce que la décision a été claire, facile à prendre?
Oui, elle a été très claire et très facile à prendre, parce que d'abord, on connaissait depuis de longues années Claudio Gatti, et puis parce que, contrairement à ce que vient de dire ma collègue, Elena Ferrante n'était pas un auteur anonyme, sous pseudonyme. Elle avait une fonction, elle a une fonction sur la place publique, et surtout, ses éditeurs ont construit un personnage réel qui s'est avéré de fiction. Je m'explique. C'est-à-dire que ses éditeurs, il y a 10 ans, un peu sans doute exaspérés par cet anonymat, l'ont enjointe publiquement de se révéler. Et ça a donné lieu quelques années plus tard à l'écriture d'une autobiographie titrée « Itinéraire d'un écrivain » et qui est entièrement fausse, qui est une série de fausses pistes et qui est un livre construit
alors,
pour faire écho.
Alors, quelles fausses pistes? Peut-être expliquer,
ah ben,
trois
tous
sœurs.
Tous les éléments, ses trois sœurs, sa mère à Naples, etc. Tous les éléments proprement biographiques énoncés dans ce livre sont faux. Alors, si vous voulez, notre collègue italien, Claudio Gatti, par ailleurs grand fan d'Elena Ferrante, il est parti de cette autobiographie. Et puis, il y a des choses qui lui ont semblé bizarres dans le phénomène d'écho avec son œuvre romanesque, etc. Et donc, il a commencé à creuser. Je pense que, si vous voulez, la question qui nous est posée aujourd'hui à nous, journalistes, aurait dû être posée aux éditeurs il y a plusieurs années. Il y a une vraie question autour du rôle des éditeurs dans comment ils ont fabriqué un personnage public qui se révèle être de fiction.
Alors, moi, je me permets de revenir sur ce que vous venez de dire sur la publication en 2003 de l'itinéraire d'un écrivain, d'une écrivaine, je ne sais plus si c'est féminisée ou pas. Mais il s'agit de quelque chose, un texte, et d'ailleurs je crois que Claudio Gatti le dit dans l'article, mais qui est quelque chose où elle, volontairement, elle dit qu'elle aime bien dire des mensonges.
Absolument.
C'est quelque chose d'assumé, et en plus c'est l'itinéraire d'un écrivain, donc pas d'une personne, donc d'un auteur, donc la figure d'un auteur, qui est Elena Ferrante, qui est un nom de plume.
Pour vous, il faut dissocier celui qui écrit de celui qu'il est.
Absolument.
Non, mais ce livre est présenté comme donnant des éléments biographiques, et présenté comme largement autobiographique, et c'est la suite d'une lettre publique écrite par ses éditeurs. Ses éditeurs avaient écrit une lettre publique demandant à Elena Ferrante, lui demandant de se révéler pour partie, tant ses lecteurs étaient friands, étaient en recherche d'éléments de sa biographie pour mieux comprendre son œuvre.
Donc,
alors après,
ce que vous voulez dire, c'est
débat.
Qu'à partir du moment où elle a répondu à cet appel, dans un sens, elle s'est engagée et elle n'aurait pas dû se dévoiler si c'était pour dire des mensonges. C'est ça ce que vous nous dites. Elle est responsable
d'un
seul coup d'un récit.
Ben, c'est-à-dire qu'elle s'installe. Moi, le débat aurait été totalement différent si on était face à un auteur anonyme, par exemple, qui n'était jamais intervenu sur la place publique. Elena Ferrante donne des interviews. Elle intervient.
Alors, elle donne des interviews.
Ah ben, par écrit. Voilà.
Et toujours par mail. Bien on n'a jamais vu. Elle est apparemment aussi dans la liste du Goncourt de littérature. Il n'y a pas de photo.
Il y a un élément, parce que moi, je suis surpris, parce que en France, cette enquête provoque un tollé. C'est pas du tout le cas en Allemagne, où quand même l'un des principaux journaux allemands, La Phase, qui en plus est une référence en matière de littérature, a publié cette enquête.
Il y a eu beaucoup de réactions négatives aux États-Unis
Italie
aux
aussi.
Aux États-Unis, faut regarder. C'est très intéressant parce que aux États-Unis, puisque l'enquête a été publiée par New York Review of Books, qui est quand même la revue de référence, la publication de référence en matière de littérature. Il y a eu beaucoup de critiques. Il faut donner un élément qui permette aussi de comprendre ces critiques. C'est que cette fameuse autobiographie d'Elena Ferrante est publiée aux États-Unis le 1er novembre.
Et que, dans quelques semaines, effectivement, alors qu'elle a déjà été lue ailleurs.
Il y a un gros enjeu commercial, pardon de le dire, autour de la publication de ce livre. Et on comprend très bien la fureur des éditeurs.
Mais donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que derrière, il y a aussi eu une utilisation un peu, peut-être, économique de ce choix.
Mais il y a eu cette ambiguïté qui a entretenu, il y a eu cette ambiguïté savamment orchestrée par les éditeurs d'Elena Ferrante et qui a entretenu cette aura de mystère et qui a participé non pas au succès de son œuvre, puisque je veux dire, c'est d'énormes livres, ce sont des best-sellers, etc. Mais
oui, la question se pose d'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce qu'elle aura le même aura. Juste, Johanna Luisen, je voulais vous faire réagir un petit peu à ce qu'a dit en filigrane François Bonnet et ce qu'a écrit Claudio Gatti, qui a dit dans son article, écrit plutôt « En tant que journaliste, je n'aime pas les mensonges ». Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette phrase?
Dans l'absolu, on peut qu'être d'accord avec cette phrase, évidemment. Mais sauf que là, je suis désolée, on ne parle pas de mensonges, on parle de quelque chose qui s'apparente à une sorte de jeu littéraire et qui n'est pas de l'ordre d'une personnalité qui a des comptes à rendre. Je trouve que le fait que ça soit une personne publique, ça ne demande pas, comme ça serait le cas pour...
Ça ne donne pas une forme d'obligation, d'authenticité.
Et puis ce désir de savoir, il ne doit pas être une obligation de savoir et surtout de faire contre le gré de la personne. Parce que les cas qu'on cite dans cette histoire et que vous avez même cité vous-même, François Bonnet, c'était par exemple le cas de Romain Gary, mais c'est pas un cas d'outing. C'est pas un cas d'outing, ce qui est très différent. Et c'est
donc
vrai
pour Romain Gary, hein, expliquons qui
c'est. Émile Ajar et qui publie des romans sous ce pseudonyme-là et qui en plus fait une sorte de machination avec son cousin pour qu'il endosse l'alias finalement.
Voilà, enfin, il envoie son cousin répondre à des interviews.
Et
donc là, il en joue.
Un deuxième Goncourt sous le nom d'Émile Ajar.
Exactement. Et voilà, il se retrouve dans cette histoire-là, mais qui est vraiment, qui est un jeu, quoi, qui est un jeu littéraire. Et pour moi, je suis pas à même de savoir exactement ce qui relève de la stratégie marketing ou du jeu littéraire.
Mais vous devriez l'être. Étonnant.
Mais non, parce
de
que
voir les journalistes culturels s'exonérer de tout devoir. Attendez, je veux dire.
Non, excusez-moi.
La culture n'est pas une sphère comme ça, faite de grandes statues.
Rappelons qu'aucune loi aujourd'hui n'interdit d'écrire en étant anonyme ou d'écrire sous pseudonyme. Il n'y a pas d'illégalité dans la chose.
Mais
alors,
il n'est pas question
quoi
d'illégalité. La question est le décalage entre la création d'un personnage fictionnel qui est présenté comme réel par ses éditeurs. C'est ça le problème, si vous voulez. Moi, j'aurais été très intéressé par
le
fait...
Il n'est pas présenté comme réel.
Mais bien sûr que si. Bien sûr que si. Dans cette lettre ouverte et dans les déclarations faites par la suite par ses éditeurs, c'est bien ça. C'est on vous donne des petits cailloux blancs qui vous permettront de découvrir la vraie Elena Ferrante. Mais tout ça est faux, de A jusqu'à Z. Donc le chemin tracé, c'est pas le bon. Et à partir de là, la question est légitime, me semble-t-il.
Parce que la question, c'est faut-il dévoiler l'identité des auteurs anonymes ? Jeanne Aluis, analyse-y.
Parce qu'il y a des tas de raisons de vouloir choisir un pseudonyme. Et ces raisons, tant qu'elles sont, elles ne sont pas guidées par justement
là,
des choses que la loi règle.
Attendez,
justement, sur les raisons d'Elena Ferrante d'avoir choisi l'anonymat. Au départ, elle l'a fait, le pseudonyme. Elle le fait, au départ, dit-elle, un peu par timidité. Et ensuite, elle y trouve aussi un intérêt littéraire. Ça vous semble être très différent, Jeanne Aluis ?
Ah oui, ça me semble cohérent. Après, c'est chacun fait comme il veut et comme il l'entend sur ces questions. Mais en tout cas, ça me semble parfaitement cohérent.
Alors, je voudrais revenir avec vous, François Bonnet, sur quelque chose que vous disiez tout à l'heure. Il faut que le journaliste, alors culturel, même si Jeanne Aluis dit qu'elle n'est pas que journaliste culturel, journaliste en entier, doit travailler comme tout autre journaliste. Pour vous, la culture doit être un terrain d'investigation comme un autre.
Mais la culture, bien sûr, c'est un terrain d'enquête comme les autres. Il n'y a pas d'extraterritorialité. Le métier qu'on fait doit être le même. Qu'on traite de faits divers, de politique ou de culture.
Mais est-ce qu'un auteur comme Elena Ferrante mérite les méthodes qui ont été utilisées, méthodes d'investigation pour traquer des criminels, des mafieux, c'est ce qu'on a beaucoup vu dans la presse italienne.
De la même manière que des enquêtes sont régulièrement faites sur le financement du cinéma et les bizarreries étranges auxquelles cela peut donner lieu, si vous voulez.
Mais le financement du cinéma, on traque des illégalités.
Non,
on traque des ententes,
pas
des projets, là,
pas
c'est
forcément
un choix libre.
Mais là, si vous voulez, on efface, encore une fois, un personnage qui est devenu public, parce que je pense qu'il faut distinguer entre l'anonymat et le pseudonymat, ce n'est pas la même chose. Donc, on efface à un personnage qui est devenu public, peut-être malgré elle, je ne fais pas de procès d'intention, et j'en sais rien. En tous les cas, par le fait de ses éditeurs, d'un personnage qui est devenu public, construit sur des mensonges.
Mais pourquoi vous supposez que c'est par ses éditeurs et pas par elle ?
Parce que le point de départ de tout ça, c'est cette lettre étrange, parce que rendu public de ses éditeurs, lui demandant de se dévoiler. Et pourquoi il prouve-t-elle le besoin ?
Donc vous êtes en train de dire que s'il n'y avait pas eu cet écrit, si elle n'avait pas répondu,
si
vous n'auriez pas publié l'enquête ?
Pour moi, la raison principale de publication de cette enquête, c'est évidemment un rebond sur cette autobiographie qui est fausse de A jusqu'à Z. Sinon, la question se serait posée très différemment. Je veux dire, moi, je vais pas... Si vous voulez que Philippe Solaire soit un pseudonyme, le vrai nom de Philippe Solaire, je m'en moque. Que Johnny Hallyday s'appelle Jean-Philippe Smet, et alors ? Et quoi ?
Mais en revanche, c'est pas une autobiographie d'écrire un texte sous un nom de plume qui s'appelle Itinéraire d'un écrivain.
Alors, il y a une autre question qui se pose un peu derrière ce débat, c'est celle de l'intérêt du lecteur à connaître ou non l'identité de l'auteur. Alors, votre position sur cette question, Jeanne Aluis, est-ce qu'on lit mieux un livre quand on connaît son auteur ? Est-ce qu'on lit moins bien ou différemment quand on ne le connaît pas ?
Ça, je sais pas. Je pense que ça dépend des cas. Et ça dépend des lecteurs, surtout.
En l'occurrence, Elena Ferrante, à votre avis, est-ce que son identité change quelque chose à ce qu'elle a écrit ?
Absolument rien.
François Bonnet ?
Non, je pense que ça dépend des cas. Je suis tout à fait d'accord. Et je pense que, si vous voulez, une explication de la violence de certaines réactions face à cette enquête, c'est justement, nous comme lecteurs, la relation quasi intime, très personnelle, qu'on construit pas seulement avec le livre qu'on est en train de lire, mais indirectement et de manière fantasmatique ou totalement fictionnelle avec l'auteur de ce livre. Et voir l'irruption du réel dans cette relation qui est forcément personnelle, on a tous adoré des auteurs et on a tous imaginé une relation particulière avec ces auteurs.
Mais alors, en l'occurrence,
donc,
sur les réseaux sociaux,
c'est pour ça que ça brasse
notamment
des choses très intéressantes.
Oui,
cette
mais alors,
affaire.
Je suis obligée de vous contredire un petit peu. Alors, mais je ne sais pas si c'est représentatif, mais en l'occurrence, certaines des réactions qu'on a lues et entendues dernièrement depuis ces révélations sont plutôt critiques sur votre choix. Vous avez beaucoup de lecteurs qui disent, peu importe qui elle est, et pire, ils disent, j'espère qu'elle va continuer à écrire malgré le dévoilement
bien
de cette
sûr,
identité.
Et dans le même temps, Claudio Gatti, l'auteur de l'enquête, raconte une anecdote amusante, puisqu'il vit aux États-Unis. Et lui dit, mais moi, chaque fois qu'on me parle de l'Italie aux États-Unis, c'est pour me demander qui est Elena Ferrante. Donc, il y a aussi des lecteurs qui veulent et sont a priori passionnés par l'auteur des livres qu'ils lisent. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de règle intangible.
Et alors, il y a quand même une chose que vous n'avez pas publiée, qui est
absolument
présente dans l'enquête qui a été publiée dans Il Sole 24 Ore, le
et
journal
dans New York
italien.
Review
dans
of
le,
Books, c'est très intéressant de voir qu'ils ont publié cet article.
Voilà, il y avait une partie sur la mère d'Anita Raia. Et vous n'avez pas choisi de le publier. Alors, pourquoi? Donc, vous
alors,
expliquez
justement
pourquoi.
Justement, pour cette raison, parce que ce deuxième article, qui est vraiment l'itinéraire de la mère d'Anita Raia, qui par ailleurs est un itinéraire incroyablement intéressant, c'est une histoire formidable.
En deux mots?
Non, bah justement, j'ai choisi de ne pas la publier, donc je ne dirai rien.
Je pensais vous piéger,
mais
vous avez été connu.
mais n'a strictement rien à voir avec la question qui nous occupait.
Là-dessus, Johanna Luisen, vous êtes comment vous positionnez? Vous trouvez que Mediapart a eu raison de faire la distinction ou vous ne la comprenez pas cette distinction?
Bah, moi, je me dis oui, tant qu'à faire et dire c'est Anita Raia, autant tout publier. Mais bon, après, c'est la démarche initiale qui m'interroge. Donc, de toute façon.
Mais quand on parle de cette nécessité de l'investigation...
Non, parce que pour le coup, vous exposiez sur la place publique une vie privée, sans avoir contacté la personne puisqu'elle est décédée. Enfin, voilà, vous étiez véritablement dans la mise en exposition d'une personne qui, encore une fois, n'a qu'un rapport très, très, très lointain avec la question principale.
Alors, on disait au début de l'émission que ça avait suscité énormément de débats sur la place publique, dans les rédactions, Johanna Luisen, François Bonnet, après cette semaine un peu de polémique, le mot est peut-être un peu fort, vous n'avez aucun remords?
Ah non, 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 au contraire, je trouve, non, parce que très franchement, au-delà de la polémique, de toute façon, ça vient soulever pour moi des relations, des questions qui sont très intéressantes. La relation des éditeurs avec leurs auteurs, parce que je pense qu'on n'a pas fini de découvrir là-dessus. Et ensuite, bien sûr, la relation qu'a chaque lecteur avec les romans et les romanciers ou romancières qu'il adore. Et c'est un élément de la polémique.
Je voudrais revenir sur une dernière chose, c'est quand vous disiez les journalistes culturels, il ne doit pas y avoir de cas particulier pour la culture. Je suis absolument d'accord avec vous, mais pour moi, il ne s'agit absolument pas de ça. Évidemment que s'il s'agissait de choses, encore une fois, répréhensibles, ça, évidemment qu'il y aurait le même intérêt à exposer les choses et ça, c'est évident. En revanche, en l'occurrence, c'est absolument pas le cas. Et je pense que ce qui est dommage dans cette histoire, c'est que du coup, elle n'a, et c'est tout le problème de l'outing, en fait, mais c'est qu'elle n'a pas la main sur cette histoire et maintenant, elle ne peut plus revenir en arrière et elle l'a pas choisi. Dans le cas de Romain Gary, dans le cas de Stephen King, quand il a publié des romans sous le pseudo de Richard Bachman, etc., à chaque fois, c'est des choses qui ont été décidées avec l'auteur. Ou alors que l'auteur l'a décidé, ou même Dominique Horry qui écrivait Histoire d'eau sous le pseudonyme de Pauline Réage. C'est des choses qui ont été décidées. Et là, ça n'a pas été décidé. Et maintenant, c'est trop tard.
Bien sûr, mais à ça, encore une fois, d'abord, elle aurait pu prendre la main sur cette histoire et on a essayé de la contacter.
Oui, mais elle l'a pas fait, ce qui est quand même un choix aussi. C'est un choix de ne rien dire, qu'on peut le respecter.
Ah, mais absolument, c'est son droit le plus absolu, heureusement. Mais encore une fois, on est dans une situation atypique d'une personne qui,
pour vous, à jouer un petit peu avec
évidemment,
le feu.
Qui est qui s'est construite depuis une dizaine d'années sur cette ambiguïté. Et ça pose tout à fait différemment le problème.
Est-ce que ça veut dire, François Bonnet, il nous reste quelques secondes, mais que Mediapart pourrait publier d'autres enquêtes qui outraient d'autres auteurs qui eux aussi n'écrivent
mais
pas sous
non,
leur vrai nom,
que,
comme, je sais pas
mais
comment
non,
on dit,
mais
Thomas
non, parce que je pense que chaque fois, si vous voulez, chaque fois, il faut que ça réponde à une question d'intérêt public. Donc, encore une fois, que tel auteur écrive sous un pseudo, c'est pas mon problème. La question est de à quelle est la problématique d'intérêt public qui
et donc, pour vous, il y
répondre.
Avait dans le cas d'espèce
je
un
pense.
Intérêt public. Merci
je
beaucoup pense. À nos deux invités,
merci.
François Bonnet, donc merci. De Mediapart, Johanna Luisen, journaliste à Libération. Merci également à Florence Ponce, à Laurie Plisson, à la documentation de RFI. Tout de suite, c'est un nouveau journal.
participer au